Bonjour.
Pardon.
Allô,
allô. Allô, c'est bon, ça marche. Désolée, on a eu un petit souci de coordination. Alors, voilà, on est bien sur RCV 99 FM et donc, vous êtes sur Genrage, votre émission féministe lilloise. Comme d'habitude, il manque juste Anaëlle aujourd'hui et donc, je suis avec Zab et avec, pour salut. Aujourd'hui, Nora Barbier. Salut Nora.
Salut.
Donc Nora est étudiante t'as été en master d'études de genre à Paris 8, à l'université de Paris 8. Pour celles et ceux qui connaissent pas, il y a une formation genre à Paris 8.
Excellente.
Voilà, qui est excellente. Je suis aussi bien placée pour savoir. Donc voilà, du coup, Nora, tu as travaillé. On va parler aujourd'hui en fait d'un sujet, du sujet de ton sujet de recherche, on peut dire en quelque sorte.
Ouais.
À savoir, en gros, tu as travaillé, je présente et tu vas nous détailler un peu plus très rapidement. Tu as travaillé sur les points de vue majoritaires. Donc, on va expliquer dans 2-3 minutes un petit peu ces termes qui peuvent paraître un peu flous. Voilà, donc on va tout simplement parler de ça aujourd'hui. Essayer de. Ça peut paraître peut-être assez théorique parce que, donc, à la base, tu as une formation de philosophe.
Ouais, c'est ça.
Donc, mais on va essayer de le rendre un peu pratique et plus concret en essayant d'avoir des liens et de faire des ponts avec nos expériences quotidiennes, en fait, soit de majoritaire, de minoritaire. Enfin, en général, on a tous des expériences en tant que majoritaire et minoritaire à la fois. Voilà, donc en fait, Nora, je sais pas si on peut commencer par ça, mais donc si tu travailles sur le point de vue majoritaire, en fait, la notion de point de vue dans les théories féministes, ça a une histoire et peut-être qu'on peut le définir. Ça se réfère un peu à certains positionnements critiques assez spécifiques, non?
Oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, les théories du point de vue, c'est donc vraiment un courant théorique qui existe depuis je sais pas les années 70, quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, c'est l'idée que les perspectives individuelles sont mises en forme par l'expérience qu'on a en fait de notre position sociale. Et donc, c'est clairement un mouvement qui vient des minorités, des marges, avec l'idée donc qu'un point de vue marginal est plus riche, en fait, parce qu'il n'est pas hégémonique. Et donc, en gros, ça se positionne contre les théories de l'objectivité qui veulent plutôt gommer le point de vue de la personne qui va produire de la connaissance. Et c'est plutôt l'idée qu'on est finalement plus objectif quand on inclut le fait de prendre en compte la position de laquelle on parle et à partir de laquelle on fait de la recherche, quoi.
En fait, c'est tout à fait ce qu'on fait. On l'applique dans tous les cercles féministes, quasi.
Oui,
quoi.
Ouais, complètement, complètement. Parce qu'en fait, c'est une façon de valider. En gros, c'est une façon de dire on peut faire de la bonne science en étant féministe. Enfin, ouais. Parce qu'à la base, c'est une théorie scientifique. Plutôt, c'est vraiment l'idée parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que y a les gens qui sont non féministes vont dire: ah, vous êtes féministe, vous avez un parti pris. Et l'idée, c'est de dire: bah oui, on a un parti pris, mais vous en avez un aussi. Il n'est pas question de ne pas avoir de parti pris. En fait, tout est inséré dans du politique. Et à partir de là, nous, on l'explicite, cette dimension, plutôt que de la gommer, en fait.
C'est un peu réinjecter de la subjectivité dans un texte qui paraît neutre, en fait.
Mais c'est marrant parce que j'ai eu ces discussions-là hier avec un mec et j'essaie de lui faire. Enfin, il me parlait du coup des discours minoritaires et compagnie. Et j'essaie de lui dire que finalement, son discours, lui, il a l'impression d'avoir un discours neutre et totalement objectif, mais il est déjà situé et c'est déjà un discours qui est subjectif. Mais comme il est totalement normalisé, il s'en rendait pas compte, quoi. Et ouais. C'est difficile de faire en sorte que les gens en prennent conscience, quoi.
Bref. Bah ouais, non mais c'est vrai, mais oui, c'est tout le truc, c'est que...
Mais c'est difficile pour nous aussi de nous en rendre compte, bien évidemment.
Bah c'est très intéressant parce que justement, en plus, on va parler de ça parce que ta réflexion croise vraiment ces questions-là, quoi.
Oui, les questions de comment les choses, s'effacent ou comment on peut avoir des impressions de neutralité là où, en fait, il y a des enjeux de pouvoir.
Ouais, c'est très intéressant. Et en fait... si je me trompe pas, toi, t'as pas travaillé à partir des théories féministes matérialistes, notamment à partir d'un auteur qui s'appelle Léo Thiers-Vidal, que tu viens ensuite par la suite travailler pour l'amener vers le queer plutôt. c'est peut-être un peu très résumé, très synthétique ce que je viens de dire, mais ouais. pour celles et ceux qui connaissent pas Léo Thiers-Vidal, qu'est-ce que tu dirais sur lui pour résumer un peu à la fois sa pensée, ses positionnements politiques, enfin.
Oui, donc en fait, ouais, Léo Thiers-Vidal, donc c'est un militant et chercheur féministe matérialiste. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée chez lui, c'est le fait que donc il a écrit, enfin, il a fait une thèse qui a été publiée ensuite en 2010 chez l'Harmattan, qui s'appelle donc il commente en fait un livre de Christine Delphi qui s'appelle L'ennemi principal. Et donc le titre qu'il a donné à sa thèse, c'est De l'ennemi principal aux principaux ennemis, position vécue, subjectivité et conscience masculine de domination. Et donc en fait, moi, quand j'avais vu ce titre, je m'étais dit que c'était super en fait de s'intéresser aux positions, par exemple masculines, enfin de mettre un peu le projecteur sur les positions justement majoritaires et de s'intéresser en plus, comme il dit, à la position vécue, à la subjectivité, à ces dimensions-là. Mais c'est vrai qu'en fait, en lisant le livre, je m'étais rendu compte aussi que peut-être qu'on n'était pas vraiment finalement d'accord sur tout, mais disons que c'est mon point de départ aussi, en tant qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses en France qui s'écrivent sur ces sujets-là. Et donc, je pars de ce qui s'est publié, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... finalement,
on peut peut-être, excuse-moi, revenir sur la manière dont tu emploies majoritaire et minoritaire. D'habitude, on emploie plutôt les termes dominant ou dominé. Tu peux peut-être nous expliquer cette différence.
Oui, donc effectivement, moi je suis. Donc voilà, je me suis dit qu'effectivement, on parle souvent de minorité. Et donc ce que j'avais envie, c'était de visibiliser la majorité qui est nécessairement antagonique, dès qu'il y a une minorité, il y a aussi une majorité. Et c'est vrai que par rapport à dominant, dominé, je sais pas moi-même où j'en suis exactement de ce raisonnement. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu l'impression que dominant, dominé, ça a une charge de violence qui peut faire du bien aussi. Ça fait du bien de le dire à un moment qu'il y a de la domination, mais c'est vrai qu'aussi, des fois, j'ai l'impression que ça me bloque un peu pour penser, et notamment parce que j'ai envie de parler des rapports de pouvoir en général, et que je ne sais pas si tous ces rapports de pouvoir sont de l'ordre de la domination, en fait. Et là, j'avais peut-être aussi envie de pouvoir créer un continuum entre des choses dont on peut, enfin, qui peut-être pour lesquelles on peut parler de domination, et avec d'autres qui sont peut-être des situations plus... je sais pas, même des fois quand on est avec des amis et que d'un coup on est un peu abusif, on déconne, et c'est il y a un rapport de pouvoir, il peut y avoir quelque chose. Et c'est pas pour autant de la domination, mais donc voilà, peut-être qu'aussi j'avais envie de pas me restreindre aux situations de domination, en fait, et de parler effectivement des rapports de pouvoir de façon plus large. Et en plus, bon, après, avec l'idée de... Bon, c'est vrai que le terme majoritaire, pour le coup, il renvoie nécessairement à quelque chose de structurel. Mais voilà, en fait, je crois que ce que j'aimais bien aussi, c'est que dans le terme majoritaire, ça parle justement de ce truc qui m'intéresse, qui est l'impression de neutralité qu'on a quand on est justement blanc, ou quand on est un mec, ou quand on est hétéro. Et donc voilà, je trouve que c'est bien, parce que majoritaire, ça, quelque part, ça dit bien le fait qu'on a l'impression d'être neutre, d'être juste normal, et alors que dominance, ça donne l'impression de quelque chose d'actif, et c'est vrai que ça l'est, c'est vrai que c'est actif. Mais c'est actif en même temps avec cette espèce de part de ce qui est à la limite de la conscience.
Oui, c'est de l'ordre de l'inconscient.
Ouais, en fait, puis je sais pas, moi, dans les termes de dominant-dominé, je trouve qu'aujourd'hui, on les emploie moins, en tout cas dans une certaine vague politique minoritaire, peut-être, j'ai l'impression, parce que d'un point de vue minoritaire, justement, ça casse l'agency, on pourrait dire, ou tous ces termes qu'on dit, tu vois, de l'idée que y a quand même une capacité d'agir de la part de ceux qui sont justement dominés, et donc dominant, il y a vraiment l'impression d'un truc d'un poids tellement énorme que c'est déjà déprimant à l'avance, quoi. Et donc dans un truc un peu positif, comme pourrait l'être d'une certaine manière les politiques plus récemment, les politiques minoritaires plus récentes. Je sais pas, moi je vois ça comme des raisons pour lesquelles peut-être on l'emploie moins, mais bon, elles sont multiples.
En tout cas, je sais pas si on l'a précisé, mais c'est vrai que quand on parle de majorité, on parle pas de majorité numérique, hein, bien évidemment.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bien de le préciser.
Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment majoritaire dans les rapports de pouvoir. C'est vraiment. Donc c'est pas. Et c'est pour ça que, effectivement. Après, ça évoque quand même la majorité numérique, mais justement, en tant qu'on peut avoir cette illusion, finalement, d'être majoritaire numériquement quand en fait on est juste majoritaire dans les rapports de pouvoir, voilà. mais parce qu'il y a justement une minorité invisible, et ben on a l'impression qu'elle est pas là ou que ouais.
Et donc en fait est-ce que tu as peut-être qu'on peut présenter, je sais pas si on a le temps, Léo Thiers-Vidal, est-ce que tu l'as présenté en termes donc lui il se positionne, ça tu l'as dit, comme féministe
féministe matérialiste,
ouais. D'accord, et anti-masculiniste également.
Oui, alors en fait, ouais, lui, il se définit comme antimasculiniste, mais pas forcément au sens de l'antimasculinisme tel qu'on en entend parler, surtout ces derniers mois, parce qu'il y a eu beaucoup de percées un peu masculinistes, là, dans les mouvements de défense des droits des pères, les trucs comme ça, les pères sur les grues, etc. Et donc, il y a un mouvement antimasculiniste qui, enfin, en réaction à ça, est en plus en train de gagner en importance, qui vraiment vise donc, à en fait, faire une sorte de réponse à ces mouvements masculinistes. Et donc Thiers-Vidal, il se définit comme anti-masculiniste, pas par rapport à ça, mais vraiment parce qu'il considère qu'il faut intégrer sa position d'homme au fait qu'il est féministe. Et donc pour lui, finalement, de là où il est, en tant qu'homme, être féministe, en fait, ça correspond à être anti-masculiniste, puisque lui, il a une position masculine. Donc c'est en fait, pour lui, anti-masculiniste, c'est synonyme de féministe, si ce n'est que ça... C'est d'un point de vue masculin, quoi.
Ouais, et justement, cette différenciation, c'est peut-être... je sais pas si on peut aller directement là, qui est en fait peut-être la conclusion de ton travail ou un enjeu de ton travail, et c'est peut-être un peu rapide d'y arriver directement. Cette différenciation qui est faite, enfin, du point de vue des hommes, c'est-à-dire construire l'idée d'un point de vue masculin et d'un point de vue majoritaire, est-ce que c'est pas quelque chose, il m'a semblé que c'est quelque chose que tu soulignes comme problématique, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse construire un truc stable d'identité homme qui se passe autour de réfléchir autour de sa pratique de domination. Est-ce que ça peut pas être problématique, c'est-à-dire que est-ce que l'idée qu'on pense le truc de truc un peu symétrique, c'est-à-dire t'as une identité minoritaire et t'as une identité majoritaire, il me semble que dans ton travail c'est un truc que tu soulignes comme pouvant être problématique en fait.
Oui, bah c'est vrai que je sais pas, parce que c'est des sujets très très délicats, et de toute façon l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire de politiquement valable en tant qu'on est majoritaire dans les rapports de pouvoir, c'est très très casse-gueule et très compliqué à... Enfin voilà, c'est très dur à démêler, quoi. Mais c'est vrai que moi, ce que je crains, c'est par exemple... donc effectivement, Léo Thiers-Vidal va valoriser l'expérience, c'est-à-dire par exemple l'expérience en fait passée et pré-féministe, je sais pas comment dire, que lui peut avoir, c'est-à-dire une expérience qui nomme vraiment une expérience de domination. Enfin, l'exercice de la domination, quoi, en tant qu'homme. Et il va avoir tendance à valoriser le fait de revenir à cette expérience une fois effectué le virage féministe. Et c'est juste que, finalement, pour avoir lu, en fait, ces textes où il effectue ce travail de retour sur cette expérience, moi, en fait, j'étais choquée, finalement, par la violence. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, il se retrouve à quand même... parler de situations dans lesquelles il a effectivement été violent et il parle d'une position dans laquelle le point de vue des femmes avait aucune valeur, et c'est juste que je vois pas quelque part l'intérêt politique de revenir sur des expériences dans lesquelles effectivement le point de vue des femmes vaut rien. Et c'est vrai que même par exemple, je sais pas, à un moment il décrit par exemple le fait qu'ils avaient fait donc une réunion ils avaient essayé de faire avec des militants une sorte de camp d'été, je sais pas quoi, entre hommes pour discuter des questions féministes. Et en fait, il y a eu un viol, c'est-à-dire donc le truc vraiment catastrophique, quoi. Il y a eu donc un viol et voilà, il parle de comment c'était catastrophique la façon dont ils l'ont géré. Et je sais pas, mais il y a quelque chose qui me pèse là-dedans, c'est-à-dire finalement, je sais que j'ai même pas envie d'entendre parler de... Enfin, du fait... Enfin, je sais pas, c'est vrai que moi, dès que j'entends parler d'un viol, ça me fait violence et je comprends à la limite l'intérêt d'en parler entre hommes, peut-être pour faire un certain travail, mais après le valoriser à un niveau plus large, se dire que ça a une valeur politique en soi et que c'est par là qu'il faut passer, je sais pas, j'ai l'impression que ça, effectivement, que ça engage des choses...
En gros, c'est l'idée que les majoritaires parlent de leur expérience de majoritaire en soutien aux minoritaires pour...
En tout cas, qu'ils la visibilisent comme étant une position majoritaire. Peut-être.
Oui, voilà, mais pour moi, en gros, je me dis oui, d'accord, mais finalement, ça reste encore une façon de mettre au centre l'expérience des hommes, qui l'a toujours déjà été. Enfin, c'est... Donc ok, il y a un retour qui consiste à dire c'est un problème plutôt que de dire c'est pas problématique, donc il y a un pas vers le féminisme, mais pour moi ce qui m'intéresse c'est surtout de faire une vraie place au vécu que lui refusait de voir en fait quand il était justement non féministe, c'est-à-dire que oui d'accord maintenant il dénonce son attitude comme problématique, mais pour moi le pas suivant c'est quand même de faire une vraie place au vécu des femmes qui sont effacées par les attitudes de domination quoi.
Je comprends. On va passer une musique et on va revenir. On va essayer peut-être de parler en termes plus concrets,
de revenir sur
les enjeux concrets en fait politiques, parce que là c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut être un peu abstrait et on voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait saisir ça en fait en termes d'expérience et tout ça. Donc voilà, tout de suite on va écouter Billy the Kick et les gamins en folie pour la chanson Quelques mots pour calmer les machos qui est sortie en 2004. Alors Billy the Kick, c'est un groupe de musique rennais qui a été formé en 90 et donc vous allez pouvoir écouter leur verve qui est assez sympathique.
On est de retour sur Jean Rage, sur RCV 99 FM. vous êtes toujours avec nous. Suzanne, Anaël, qui n'a pas encore parlé, mais c'est pas très grave. Et Nora.
Barbie,
excuse-moi. Alors, pour revenir sur Léo Thiervidal, je pense que ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant qu'il visibilise l'expérience d'homme dominant, et c'est intéressant de justement mettre en valeur, enfin, pas mettre en valeur cette expérience, mais de bien montrer que c'est, enfin, de conscientiser, d'essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est une position de majoritaire.
Mais c'est une position active en plus.
Voilà,
je crois que c'est ça qui lui importe.
Je comprends ton argument, en fait, si j'ai bien compris, qui est celui de dire, finalement, c'est bien joli de se dire, oui, on a visibilisé notre position en tant que majoritaire, mais finalement, on fait que recréer cette... Enfin, on reste installé dans cette position de majoritaire en parlant, quoi. Je pense que c'est ça que tu voulais dire.
Oui,
plutôt que
ça.
De se dire, je me retire de la... Enfin, de l'espace discursif,
de parole,
on va dire,
par
voilà, exactement, pour laisser la parole à des personnes qui ont moins accès à cet espace. Je pense que c'est ça que la critique que tu avais à lui faire, si j'ai bien compris.
Oui, ouais, et puis c'est même parce que, comment dire, j'ai l'impression que, parce qu'après, moi, ma perspective, donc, c'est vraiment aussi de croiser, c'est-à-dire de ne pas juste rester dans un truc binaire, par exemple homme-femme, mais de se penser comme étant pris dans tout un tas de rapports de pouvoir, voilà, qui peuvent être raciaux, de classe, de sexe, de sexualité. Donc c'est... Et même, voilà, je sais pas, d'être valide ou handicapé, ou voilà. Et donc c'est juste que... Voilà, vu la complexité en fait des rapports de pouvoir, j'ai l'impression que faut aussi commencer à penser des pratiques et commencer. Enfin, c'est juste que ça me semble un peu limité de. Enfin, disons que j'ai l'impression que un des aspects de la façon dont le pouvoir fonctionne, c'est que quand on est pas minoritaire, quand on est majoritaire, on sait rien de ce que vivent les gens qui sont minoritaires. On oublie. Enfin, on leur donne pas un plein statut de sujet, on va dire, et donc. On sait concrètement, on n'a aucune idée de ce qu'ils ressentent et on s'en fout pas mal, quoi. Et donc, et c'est juste que pour moi, bah, si on veut s'engager politiquement, faut arrêter de faire ça, en fait. Faut les prendre comme des personnes à part entière et donc discuter un peu et se taire parfois, écouter. Et c'est juste que finalement, je trouve que Thiervidal, en s'étendant un peu sur son expérience passée et tout, j'ai l'impression qu'il garde, en fait, il garde la parole, il garde sa position de centralité et que c'est assez limité politiquement, même si je vois bien que sûrement que ça a du sens aussi, qu'il faut peut-être garder une place pour ça, j'en sais rien, mais c'est vrai que pour moi, ça peut pas être le tout d'une attitude politique parce que ça reproduit trop, en fait... le fait de, voilà, de rester celui qui parle, celui qui pense à la place des autres. C'est un peu trop comme ça pour moi. Mais...
Je réfléchis en même temps. mais du coup, peut-être le problème, s'il s'en est un, je ne suis pas sûre que ça en soit un non plus. Mais si on écoute ses paroles ou ses expériences en se disant que c'est vraiment une expérience et à part entière, est-ce que c'est pas aussi renforcer le fait que ces personnes soient différentes? Je parle de manière générale, moi aussi, enfin tout le monde. Est-ce que ça renforce pas finalement cette... Enfin, c'est...
Binarité?
Ouais, voilà. C'est binarité ou en tout cas opposition entre majoritaire et minoritaire, quoi.
Bah non, parce que... Enfin, oui, je vois le...
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je crois que je vois. Mais justement, je pense qu'il faut pas les écouter en tant que c'est des expériences minoritaires. En fait, je pense que c'est juste que quand on... En fait, je pense qu'il faut les écouter comme on écoute les expériences. C'est-à-dire que, par exemple, quand, enfin, de la même façon que quand on est dans une position majoritaire, on raconte souvent ce qu'on vit et on écoute souvent ce que vivent les autres personnes majoritaires. En fait, il s'agit juste d'avoir la même écoute pour des gens que d'habitude on n'écoute pas. Enfin, je parle vraiment de rien de plus. Et pas les écouter en tant que minoritaires, mais juste les écouter. Vraiment comme... parce qu'en fait, c'est juste que je... Ouais, je trouve que c'est un enjeu quand même vraiment important d'une... Enfin, j'ai l'impression qu'on reste trop facilement entre... Enfin, voilà, entre blancs pour les blancs, entre mecs pour les mecs. Il y a un peu quelque chose où on veut bien s'engager au sens où on fait notre autocritique, mais on l'a fait tout seul. Il y a un peu un inconfort là-dedans, disons. Il y a un confort... pas un inconfort, mais un confort, je trouve, là-dedans. Et donc, c'est ça que j'avais envie de questionner un peu.
Ouais, je comprends carrément ce que tu dis. Enfin, je suis assez d'accord en fait avec ce que tu dis. Mais cela dit, quand on avait parlé hors studio tout à l'heure, on a évoqué l'idée de stratégique en fait, parce que là, j'ai l'impression qu'on est Enfin bon, là, on est en train de parler d'idéal, un peu d'idéal politique. Enfin, en fait, non, ça peut très, très bien s'appliquer et ça se pense, en fait, assez facilement. En fait, c'est tout simplement laisser parler. Ça peut s'expliquer de façon assez, assez simple. Mais Zab, je crois que tu disais un truc qui était assez juste. C'était que, en fait, par exemple, en termes pédagogiques, genre pour pouvoir faire comprendre à des gens qui n'ont pas du tout conscience de ces rapports de pouvoir, mmh. Et ben souvent les majoritaires, et ben ont une légitimité plus importante, enfin sont légitimés, sont plus écoutés de fait, enfin. Et du coup, ils permettent de donner un accès, en fait, tout simplement. Ils permettent d'être des sortes de médiateurs. On peut penser notamment, à des assos qui vont intervenir dans des écoles, dans les lycées. Je crois que c'est ce que t'évoquais tout à l'heure. Dans des lycées, on peut penser à tout ce travail de médiation qui est pris en charge par un certain nombre d'assos et qui, en général, sont pas portés, enfin. Les assos se politisent pas en termes de sujets politiques et du coup, enfin, peut y avoir aussi bien des majoritaires que des minoritaires qui sont dans ces associations. Je parle en termes très très vagues. Mais en gros, la conclusion, là où je veux en venir, c'était que en termes de pragmatisme, ça peut s'utiliser. En fait, l'argument de Léo Thiers-Vidal peut s'utiliser.
Oui, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec l'idée que ce genre de médiation, comme tu dis, que c'est vraiment bien, parce qu'effectivement, d'autant plus que souvent, par exemple en tant que femme, si on se reçoit des des attitudes macho toute la journée, on n'a pas en plus forcément le courage de faire, de venir faire des explications, parce que ça prend aussi du temps et de l'affect.
D'être pédagogique.
C'est vrai que moi, je trouve ça très bien, en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très bien que des gens qui soient peut-être moins touchés par ça, en l'occurrence, par exemple, les hommes, se prennent ce temps, cette énergie pour peut-être aller expliquer un peu ces idées à des gens qui ne connaissent pas. Mais c'est vrai que par contre, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est juste que ça peut. Faut juste pas que ça vire au fait de, en tant que personne qui a une position majoritaire, au fait de penser à la place des autres et de retomber dans un truc où on donne des leçons, on croit qu'on sait ce que pensent les autres alors qu'en fait, on les écoute pas. Et ça, c'est vraiment des dynamiques qui sont au cœur de ce que c'est qu'être un sujet majoritaire. C'est vraiment. Enfin, les sujets majoritaires, c'est ceux qui ne pensent jamais. Enfin, c'est comme, par exemple, par exemple, au moment de la loi sur le voile, on a très peu pensé à poser la question aux femmes concernées qui se voilent. Pareil pour la prostitution, on va rarement demander leur avis aux gens qui se prostituent. Donc, c'est vraiment ce truc, quand on a un sujet majoritaire, on oublie que les sujets minoritaires sont des sujets de parole, on ne les prend pas comme des sujets avec qui on discute. Et c'est juste que, ça c'est vraiment pour moi caractéristique du fait d'être majoritaire. Et c'est juste ça où je pense qu'il faut être très 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 vigilant quand on est majoritaire. Et donc effectivement, aller faire de la pédagogie, ça peut être très bien, mais juste peut-être en même temps rester quand même vigilant.
oui, tout à fait. Par contre, peut-être qu'on pourrait revenir sur je pense au titre de ton intervention. Du coup, c'était quoi exactement le lien que tu voulais décrire, ou en tout cas dont tu voulais parler entre féminisme, entre matérialisme et queer, mais vis-à-vis de Léo Vidal?
Ouais.
Peut-être qu'on peut en parler de ça.
Donc effectivement. Moi, là où j'ai l'impression quand même de m'inscrire dans une forme de matérialisme, et ça m'intéresse de repartir de là, c'est quand même aussi le fait de vraiment penser une forme de violence sociale forte, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'à un moment, il y a des rapports structurels, mais c'est vrai qu'en même temps, parce que j'ai quand même aussi cette idée plus queer qui est que quand même. Les choses sont dynamiques et les rapports de pouvoir, ils sont très 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 complexes, et surtout que ce qui m'intéresse de souligner, c'est le fait que quand on est surtout investi dans une vie militante, on a tendance très naturellement à se positionner comme étant une minorité, alors qu'en fait par exemple moi je suis blanche, par exemple féministe, et je vais plutôt me penser, très facilement, je peux oublier que je suis blanche, quoi, très facilement. Et alors qu'en fait, je suis absolument autant insérés dans des rapports de pouvoir de race que des rapports de pouvoir de sexe. Enfin, donc, c'est juste que je trouve qu'il faut faire attention, surtout quand on a des prétentions militantes et politiques, quoi, à essayer de rester un peu quand même conscient de ça. Et donc, en fait, j'avais juste envie d'essayer de réfléchir à des pratiques possibles pour juste pas trop se voiler la face sur ces trucs-là, comment un peu pas s'oublier là-dedans. Parce que c'est ça, pour moi, c'est vraiment le fait d'être majoritaire, ça se traduit par une impression de neutralité, quoi. Et donc, concrètement, l'effet premier, c'est vraiment l'impression qu'on est neutre et qu'il n'y a rien à dire. Enfin, effectivement, l'expérience de base pour moi d'être blanche, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à en dire, quoi. Alors que.
Oui.
Alors qu'en fait, il y a tout à en dire, quoi. Et c'est ça. Et en fait, aussi, ce qui m'intéressait un peu comme horizon, mais alors c'est peut-être un peu délicat encore d'en parler, mais. C'est que j'ai l'impression qu'on se construit, dans l'idée que on a une identité, que pour se comprendre et s'élucider soi-même, il faut qu'on se penche sur notre expérience, etc. Et en fait, je me dis que par exemple, pour moi, le fait d'être blanche, c'est plutôt, je le vis comme quelque chose de neutre. Je me dis, est-ce que finalement, pour me comprendre et m'élucider moi-même sur ces questions-là, est-ce que la bonne attitude, c'est pas finalement d'aller me décentrer vraiment et essayer de comprendre en fait quel est tout l'envers de moi, mon attitude quotidienne de personne blanche qui, enfin, l'habitude que j'ai, de prendre le métro et je sais que les Noirs, ils vont être contrôlés et moi, je vais pas l'être et des choses comme ça. Et je m'attarde pas là-dessus. Mais voilà, c'est des choses qui sont mon quotidien et que je refuse de voir, en quelque sorte. Et c'est juste que finalement, j'ai l'impression que, paradoxalement, en écoutant des gens qui vivent d'autres choses et qui finalement, je peux... je suis pas forcément en train de m'éloigner de moi, parce qu'en fait, c'est un peu cet argument qu'ont des gens comme Thierry Vidal, c'est de dire, mais finalement, c'est un peu un faux truc, ce truc d'écoute. À un moment, on est un homme, et notre expérience, c'est ça. Et moi, ça m'énerve, en fait, un peu ce truc, il faudrait absolument en revenir à ce qu'on vit de dominant, alors que finalement, moi, je me dis, la domination, on n'en a jamais vraiment conscience.
Oui, c'est ça.
Et donc, je sais pas s'il y a une vraie expérience de domination à faire valoir, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on. Ça se fait pas très consciemment, et donc, par contre, ce qu'on peut faire consciemment, c'est d'arrêter, quoi.
Et puis que c'est pas de là qu'on va penser des transformations politiques. J'ai du mal parce que le but, quand même, c'est pas seulement d'expliquer, c'est quand même d'aller vers d'autres situations, c'est de pouvoir penser des transformations. Comment tu veux transformer un truc à partir de... je trouve que l'impact de métamorphose, en fait, il est beaucoup plus possible avec une subjectivation minoritaire qu'avec une subjectivation majoritaire. T'as l'impression que les majoritaires, ils vont parler de leurs expériences et tout. Enfin, ils ou on, mais voilà, qu'on parle de nos positionnements majoritaires, je vois pas, mais j'ai du mal à imaginer des transformations politiques à partir de cette ces subjectivités là, en fait.
Bah oui, en fait, c'est ça, je suis effectivement complètement d'accord. Moi, c'est vraiment ce qui me dérange, parce qu'en plus, j'y vois quelque chose d'assez naïf. J'ai l'impression que finalement, Thierry Vidal est dans une perspective très très morale, et qu'il est vraiment dans un truc où s'il parvient à prouver que son attitude passée d'homme était une attitude injuste, violente à l'égard des femmes, ou qu'il les respectait pas, etc. Alors, en parvenant à prouver ça, il aura fait acte de, je sais pas, il aura fait un geste féministe, quoi. Parce qu'il aura prouvé... Et en fait, pour moi, je m'en fous de donner raison au féminisme. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut juste lancer des praxis, c'est absolument... parce que sinon, c'est...
Par exemple,
c'est un peu compliqué de juste dire ça. Mais...
En fait, on va peut-être mettre une musique, on y revient juste après. Mais je pensais juste comme exemple pour essayer un truc un peu, je sais pas, qui m'a parlé là dernièrement. Il y a Patrick Jean, qui est un féministe, un pro-féministe français qui a pas mal travaillé sur les masculinismes au Québec. Il a lancé une action dernièrement qui a tourné sur Facebook qui en a fait rire, mais tout le monde, tellement c'était ridicule. Enfin, désolé, mais il a proposé de faire du repassage. C'est-à-dire que les hommes repassent. C'est des performances de repassage public. Pour visibiliser l'expérience majoritaire, genre des hommes à la maison. Déjà, c'est ultra normalisant. À quoi ça sert de penser ça? Enfin, ça, je me dis, c'est un bon exemple de qu'est-ce que ça fait quand les majoritaires qui se positionnent en tant que majoritaires, proposent de penser la domination pour la déconstruire, mais en se donnant un espace de parole hyper important, parce que Patrick Jean, c'est son cas. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est sur le moment, t'es là, mais oh, c'est quoi ce truc, quoi. Enfin, t'as pas du tout envie de participer à un truc pareil, quoi. Ouais. Voilà.
Oui, du coup, il pense la domination, mais enfin entre guillemets, mais il reste dans cette d'hégémonie en termes de parole, quoi.
Mm. Bah, surtout que effectivement, des gens comme Patrick Jean et Thierry Vidal, en fait, aussi, hein, ils sont dans des, enfin, une pratique qui est une pratique d'auto-limitation de leur propre pouvoir. Et ça, c'est vraiment très très net, même chez Thierry Vidal.
Ouais.
Quand il définit ce que c'est, par exemple, pour lui, que qu'être anti-masculiniste ou quoi, c'est vraiment son raisonnement, c'est de dire être anti-masculiniste, c'est se rendre compte qu'il ne faut pas exploiter les femmes et décider d'arrêter de le faire. Donc, c'est-à-dire que c'est lui. Donc, il continue. En quelque sorte, il n'a même pas à reconnaître une femme comme un sujet parlant avec lequel il va composer une politique. Il se contente d'identifier sa pratique comme étant problématique et donc d'y renoncer. Mais y renoncer, ça veut dire il garde le pouvoir. Mmh. Il s'auto-limite lui-même en gardant le pouvoir. Et ça, c'est très, très, c'est très net, en fait. C'est vraiment... Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée d'opposer à ça une vision un peu de la politique dans laquelle, finalement, la politique, c'est pas identifier ce qui est bien ou mal, exploiter les gens, c'est mal. Finalement, faire de la politique, c'est peut-être... donner de la valeur à la parole de chacun et composer ensemble, même sans forcément avoir des idéaux de bien et de mal et de ce qui est bon ou pas, mais juste en se disant, bah, si une femme dit ça me va pas, ok, on se dit, bah, elle a dit que ça lui va pas, donc on l'écoute. Et à la limite, comme ça, y a une façon de donner une vraie valeur à la parole des gens. Enfin, pour moi, à la limite, le maximum de l'attitude vraiment politique, c'est accepter finalement une revendication qu'on comprend pas, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça, c'est de la... Là, on est dans le politique, quoi. Quand vraiment quelqu'un formule un désir et qu'on comprend pas du tout pourquoi cette personne, c'est important pour elle de refuser ça. Mais on n'a pas à le comprendre, c'est de la politique. C'est cette personne, sa parole a une valeur, donc, donc on l'écoute, quoi, même si on comprend pas. Enfin, et ça, je trouve que c'est l'opposé, en fait, de Thierry Vidal. Lui, il est vraiment dans un truc, faut qu'il comprenne. Et là, ok, il s'auto-limite lui-même en disant, ok, j'arrêterai de faire ça.
On va revenir là juste après. On va peut-être,
alléger
un peu le flux et donner un petit peu une petite pause à celles qui nous écoutent et ceux. Donc, pardon.
À seul.
Je vous laisse à seul qui nous écoute. Et donc, on va. On vous laisse avec Phoebe Jean, c'est comme ça qu'on prononce.
C'est un
plan de Nora. Enfin, un plan, pardon.
Oh, j'aimerais, là. J'aimerais.
Pour le lapsus,
Phoebe Jean, si tu nous écoutes.
Enfin, je vais lui dire, c'est Nora qui nous a donné ça comme référence de chanson pour l'émission. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y avait un message subliminal qui est passé. Donc voilà, et vous allez écouter Phoebe Jean and the Air Force pour Cover Girl.
Transcontinental cover girl, where are you going? Transcontinental cover girl, where are you going to? Look over there. Spread your legs against the wall you are under arrest. Hold your hands where you can see them. Spread your legs against my wall you are under arrest. Transcontinental, I think I have seen you. Cover girl, cover girl, cover girl. Cover girl, cover girl. Transcontinental, I think I have seen you. Cover girl, cover girl, cover girl. Cover girl, cover girl. Transcontinental, I think I have seen you. Cover girl, cover girl, cover girl. Cover girl, cover girl. I don't know where it was, maybe it was somewhere. I don't know.
Voilà, c'était Phoebe Jean and the Air Force. Et pour Cover Girl, pardon pour l'accent un peu caricatural, ça m'arrive.
Ça y est, c'est bientôt la fin d'émission, Suzanne.
C'est
elle
ça.
Décroche.
Ouais, j'ai
dit des bêtises déjà.
Et à fond. Donc en fait, Nora, il y avait un truc qui m'avait interrogée dans ce que tu. On avait terminé sur l'idée que, en gros, je résume, l'important, c'est l'idée principale de cette émission en fait. Enfin, j'ai l'impression. L'important, c'est de se déprendre de soi pour un majoritaire, de se déprendre d'une position centrée, de se décentrer et d'apprendre à écouter, de recevoir la parole minoritaire, en fait. Et d'être dans une sorte de passivité un peu politique, pour résumer.
Ouais.
Mais du coup, bon,
tu vas recevoir la parole.
Bon, on va pas... Ouais. Mais sinon on va trop chipoter. Je suis comme toi. Hein. Moi j'adore chipoter sur les termes et tout, mais c'est juste
Non, mais c'est plus. Enfin après pour moi c'est. Enfin en fait c'est même pas faire un truc de fou non plus. Hein. C'est juste que ce qu'on fait déjà, on va dire entre personnes majoritaires, c'est juste ouvrir un peu le cercle. Quoi. C'est vraiment. Enfin je crois que.
Ouais ça va.
Vraiment ça va pas beaucoup plus loin. Enfin et ça pourrait peut-être, mais moi j'ai pas assez.
Pour le moment
je suis pas assez sûre de moi pour. Enfin vraiment c'est juste cette idée là. En fait c'est quelque chose qu'on fait déjà, enfin, entre personnes majoritaires.
Ah ouais.
Et...
Oui, c'est penser quelque chose qui est déjà fait, en fait.
Bah, oui, mais qui exclut certaines personnes et cesser de les exclure du dialogue, en fait, et du fait de...
En fait, justement, je pensais à un truc par rapport à ça qui va peut-être paraître anti ce que tu dis, ce qui n'est pas le cas, mais il est vrai que ça m'est arrivé...
Anti ce que tu dis.
Il est vrai que ça m'est arrivé en circulant sur... Tu vois, tu check des groupes Facebook, machin.
Ça y est, on est parti.
Anti ce que tu dis. Ouais, parfois, il y a des expressions. Et donc, je trouve que... Je me dis, les limites, en fait, de cette pensée-là, c'est qu'en fait, on va avoir tendance à valoriser la parole minoritaire juste parce qu'elle est minoritaire et pour elle-même. Et du coup... Tout simplement, au-delà de ça, il y a des gens qui peuvent dire des conneries parfois, ou qui peuvent dire des trucs super intelligents en tant que... Et je me dis, c'est jamais suffisant. Bon, de toute façon, c'est pas suffisant. Et donc, parfois, on peut aussi dire, en gros, des conneries et dire, non, mais laisse-le ou laisse-la parler, parce que de toute façon, elle a légitimité. Je suis d'accord, mais parfois, je trouve que c'est... Bah, voilà, j'en vois les limites parfois, ou du moins, je me pose la question... de la pertinence de cette épistémologie-là, même si elle est très importante dans ce genre de contexte. Je reconnais son importance, hein, vraiment. Hein, je l'applique moi-même, mais enfin j'essaye.
Ouais, ben après en fait le truc c'est que je parlais, bon effectivement, c'est sûr hein, que après moi je parlais d'écouter, pas forcément d'être d'accord ou de absolument considérer que chaque mot est vrai de ce que.
Ouais.
Mais en plus. Comment dire ? En fait, je pense que ce que je disais, ça s'adresse même pas forcément tant à des contextes de discussion politique qu'à des contextes de presque plus de la vie courante, en fait. Enfin, c'est-à-dire de moments où on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la politique, mais c'est vraiment que enfin voilà, le fait d'avoir une position majoritaire, ça encourage à pas écouter les gens qui sont minoritaires, mais même pour des questions qui n'ont rien à voir avec ces débats politiques, en fait. C'est vraiment juste... je sais pas, par exemple... Enfin, je sais pas, c'est... Même si c'est pour dire, ah, qu'est-ce qu'on va faire à dîner, enfin, ça peut être... Voilà, ça peut être toujours les mêmes qui décident, quoi. Je sais pas comment dire,
non,
même
mais
pour des trucs qui n'ont rien à voir.
Ouais, carrément,
et en fait,
ouais.
C'est même plus à ça que je pensais.
En fait, ça a une application...
Une pratique, en fait, vraiment, c'est pour ça que je parlais de pratique, c'est juste une pratique quotidienne de comment on est engagé politiquement autrement qu'en tenant juste des beaux discours un petit peu. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. C'est comment on fait pour que ce soit concret, le fait de... Disons que voilà, j'ai l'impression que même quand on est capable de tenir des argumentaires un peu chouettes, politiques et tout, on peut continuer d'avoir des pratiques un peu dégueulasses qui consistent à faire ce truc un peu sournois qu'on a en tant que personne majoritaire, qui est de finalement donner aucune valeur à la fois et à la parole de gens qui sont minoritaires. Et donc voilà, c'est juste penser comment arrêter de faire ça, en fait.
Mm-hmm. Non, en fait... Ce qu'on a essayé de faire pendant l'émission, c'était pas évident parce que malgré tout, c'est quand même en fait c'est un gros travail d'abstraction que tu fais et donc ça veut dire que d'une certaine manière c'est très intéressant, hein, c'est pas la question, enfin c'est pour ça que quand même t'es là, c'est parce que c'est très intéressant, mais c'est-à-dire que il est difficile, nous aussi ce qu'on essaye de faire c'est que ça soit compréhensible en termes assez concrets, et c'est vrai qu'on a essayé là de voir ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire que voilà, en gros, ces situations, tu parles du quotidien, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que tu parles d'une certaine forme de quotidienneté. C'est-à-dire que, en fait, je me souviens dans ton travail, dans ce que j'avais lu et tout, tu disais que on pense souvent, on pense souvent le majoritaire et le minoritaire d'un point de vue juridique, etc. Et que là, toi, tu réinjectes de l'infect, tu réinjectes du corps, tu réinjectes, voilà, tu réinjectes des rapports qu'on vit quotidiennement, et je pense que c'est peut-être aussi un truc dont qu'on a besoin de penser, parce que évidemment que les lois, évidemment que machin, oui, c'est hyper important. C'est en fait ça, en général, quand on essaie de penser concrètement le truc, quand on milite pour des trucs, c'est ça qu'on essaie de penser, mais n'empêche on est confronté à des situations quotidiennes de rapports de pouvoir et tout, et on n'a pas toujours les armes
En plus, ouais, effectivement, sur la dimension affective, en fait, j'ai l'impression que une des façons dont s'incarnent les rapports de pouvoir, c'est, majoritaire, minoritaire, c'est vraiment le fait que quand on est majoritaire, on se ferme affectivement aux gens qui sont minoritaires. C'est-à-dire que, et c'est vraiment un phénomène, je sais pas, qui se constate, quoi.
Si je peux me permettre, ce que je suis en train de penser, je sais pas si ça va être normatif de dire ça, parce que j'allais dire des situations de couple, alors que bon, on pourrait penser aux troupes, on pourrait penser aux relations non monogames, etc. Et on pourrait, parce que, entre autres, on a, enfin là, je pensais en relations amoureuses, en fait, du moins. Affective dans ce spectre-là. On a fait un truc sur la monogamie, enfin Zab a fait un truc sur la monogamie il n'y a pas longtemps. Ce que je pensais, ça, c'est que, aussi en termes queer, je pense que c'est peut-être que le queer, ce qu'il aide à penser, c'est que les rapports de pouvoir, ils sont partout, que quoi que tu fasses. C'est-à-dire que même dans des relations PD, Gwyn, etc., tu n'échappes pas à des dynamiques de pouvoir dans des relations, que tu sois. Enfin, ça dépend en quel terme, etc. En termes de sexualité. Mais du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que ça peut nous penser, nous aider à penser même dans nos relations affectives. Par exemple, c'était un exemple, mais ça peut être les relations familiales, ça peut être les relations au travail, ça peut être les relations au sein du politique, enfin de la militance, du militantisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est là dans ces rapports de pouvoir, quoi qu'on fasse, ou pas, hein, ça peut arriver que non, mais comment essayer de les penser, c'est pas évident. Je trouve que c'est vraiment pas évident. On a très envie d'être... par exemple, bon là c'est plus en tant que minoritaire du coup, on a très envie d'être agressif, en fait, on a envie d'être... On n'en peut plus, quoi, de justifier toujours, on est toutes féministes à cette table, on n'en peut plus, quoi, je veux dire, c'est fatigant, on en a marre, je veux dire, expliquer à machin et tout, enfin peut-être qu'on a des degrés de fatigue variants selon les jours, l'humeur, le moment, la date et les personnes, mais on en a marre. Et de la même manière, peut-être qu'on fait peut-être pas preuve de la même d'une patience égale envers... je sais pas, je pense qu'ici... à cette table, on est également toutes blanches, donc je pense que oui, on reste dans un entre-soi, quoi, qui est très problématique qui est extrêmement problématique, hein, bien sûr. Donc penser ces trucs-là, c'est vachement important, et puis le penser en dehors de l'idée d'une culpabilité, forcément un truc, tu vois, qui est mortifiant, etc.
Je suis vraiment complètement d'accord. Enfin, surtout que pour moi, en fait, la culpabilité, c'est surtout que il y a pas pour moi quelque chose qui conduit plus à l'inertie que la culpabilité, quoi. Parce que, pour moi, la culpabilité, c'est vraiment ce qu'on accepte de payer pour que les choses restent qu'elles sont, en fait. Donc, ouais. Donc finalement, culpabiliser, c'est vraiment se dire, eh ben, je vais pas bouger d'un poil, quoi. C'est donc... Ouais, donc... Pas de culpabilité.
C'est pas évident.
Non, non. Ouais,
je culpabilise très facilement, évident. Par exemple. Donc
Ah oui, Suzanne.
On va pas faire ma psychanalyse aujourd'hui. Ça restera sur le divan.
Après, c'est quand même agréable d'être dans l'entre-soi parce que c'est confortable, quoi.
Un entre-soi minoritaire ou majoritaire?
Les deux, c'est confortable dans tous les cas et c'est aussi compréhensible de se dire j'ai pas envie de me remettre en question ou j'ai pas envie de me heurter à d'entendre des choses que j'ai pas envie d'entendre, etc. C'est surtout quand on est fatigué parce qu'on doit se justifier perpétuellement, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il faut en sortir. Bref.
Non, mais c'est clair, je suis d'accord. Je pense que, à mon avis, on arrive plus ou moins au terme de l'émission. Si je pense que j'ai jaugé un peu les vibes là qu'on s'envoie et tout ça. Et en tout cas, c'était hyper cool de t'avoir, Nora, vraiment.
Tout bien
pour moi. Et donc, en plus, je pense que c'est la. Est-ce que c'est la première fois qu'on reçoit une philosophe? C'est pas seulement une philosophe, mais. T'es pas seulement une philosophe, mais bon. En tout cas, on a été à la fois très abstraite, on a essayé de lutter contre notre gueule de bois, mais c'était, on a bien réussi, je trouve, quand même. Ouais. Enfin, franchement, on a été assez warrior sur le coup. Et donc, voilà. Bon, on se revoit dans 15 jours pour je sais pas quoi.
Génial, quoi.
On se revoit le
c'est
14.
C'est hyper
vendeur. On se revoit le 14 juillet. Normalement, on aura d'autres invités. Si tout se passe bien, pour des sujets aussi hyper excitants, vous allez voir, très variés. On va vous concocter un programme vraiment chouette.
Sachant que Suzanne part bientôt aux États-Unis, que deviendra cette émission? Nous verrons bien.
Ouais, c'est un peu la question. On ne sait pas trop encore.
Bref.
L'avenir de Genrage est incertain. Voilà. Donc, on va vous se laisser sur cette note un peu moins optimiste, mais néanmoins...
Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Wazem.
On va pas commencer à faire
des... Venir voir nos gueules.
C'est ça.
Bon,
allez,
à bientôt.
À dans 15 jours. Hey, y'all wanna go down to Devil Gate Drive?